Alors, il y a quelques semaines de cela, on était encore au printemps, nous avions commencé une série intitulée À contre-courant. Le principe, hein, de la série, c'est de reprendre une douzaine de fruits de l'esprit, ou autrement dit de valeurs que l'Évangile nous invite à cultiver dans un monde, dans une société qui n'est pas toujours féru, ou en tout cas pas toujours en phase avec ses valeurs. Et lors de cette première saison, on avait évoqué les questions de vérité, d'espérance et de liberté. Et dans cette saison 2 qui s'ouvre maintenant, cet été, eh bien, nous allons explorer les thèmes de la douceur, de l'amour et de la fidélité. Et avant de commencer par cet épisode sur la douceur, cultiver la douceur dans une culture d'affrontement, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour ce temps d'écoute de ta parole. Et nous te demandons de venir parmi nous, nous te demandons de nous aider à entendre ta parole. Te demandons qu'elle soit un encouragement, qu'elle soit une bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et pour illustrer cette question de la douceur dans une culture d'affrontement, nous allons lire l'évangile du jour dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Et à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent: C'est un fantôme! Et ils poussèrent des cris de frayeur, mais aussitôt Jésus leur parla. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit la parole et lui dit: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria: Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent: Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Nous voilà donc plongés, c'est un peu le cas de le dire, dans cette rencontre, cette retrouvaille un petit peu inhabituelle entre Jésus et ses disciples. Mais alors, on peut se demander ce que ce texte peut bien nous enseigner sur la douceur, sur la culture d'affrontement. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. D'abord, c'est intéressant de voir le contexte, hein, ce milieu de vie du texte, dans quelle époque, dans quelles circonstances il est écrit, mais aussi de quelle façon l'auteur de l'évangile de Matthieu l'insère dans son livre. Ce texte, digne d'un conte venu du Loch Ness un petit peu, hein, nous présente une certaine course-poursuite entre Jésus et le bruit. Jésus cherche le silence. Il cherche la solitude. En fait, il est en deuil. Son cousin Jean, celui qu'il avait baptisé quelque temps plus tôt, est décédé. Jésus décide alors de partir pour la campagne, pour s'isoler avec ses 12 disciples, mais il est suivi par une foule nombreuse. De façon miraculeuse, il leur donne à manger alors qu'il n'y avait là que 5 pains et 2 poissons. Mais rapidement après, il renvoie les foules, il s'éloigne, et cette fois-ci, il y va seul. Il envoie ses disciples vers l'autre bord du lac de Galilée, et certains d'entre eux, comme Pierre et Jean et d'autres, connaissent le lac par cœur. Ils ont grandi là, autour du lac. Ils y ont travaillé plusieurs années en tant que pêcheurs. Et même si la météo donne quelques signes de tempête, hein, avec ses vents contraires, ses vents forts, ces marins aguerris n'en ont probablement pas peur. Ils traversent le lac et laissent Jésus seul. Jésus qui s'éloigne, probablement pour pleurer et faire le deuil de son cousin. Et dans ce contexte, la culture d'affrontement, elle se rend visible de deux manières. D'abord, et c'est la raison de l'isolement de Jésus, de son deuil, hein, la mort de son cousin. Jean est exécuté froidement par le gouverneur de la Galilée, le roi Hérode. Une exécution qui culmine un stratagème bien macabre, où la belle-sœur d'Hérode a utilisé sa propre fille pour le séduire, afin qu'il leur amène la tête de Jean servie sur un plateau. Ni plus, ni moins. Si tout à l'heure on était dans le Loch Ness, là on est plutôt dans 300, ou en tout cas un film de ce genre, dans tous les cas, l'affrontement est là. Jean est éliminé, il décède, Jésus en est très attristé. Et puis, deuxième façon de voir la culture d'affrontement, de façon symbolique, c'est vrai, assez simple, mais c'est la tempête sur ce lac. Ces vents dits contraires, qui vient de façon symbolique cristalliser cette culture d'affrontement. Alors cette tempête, ces vents sur le lac, ils ne sont pas inhabituels, hein, les pêcheurs en ont l'habitude, et ils ont l'habitude de devoir l'affronter pour pouvoir pêcher quelques poissons. Voilà une esquisse de ce contexte qui nous donne quand même de quoi réfléchir déjà. Jésus et ses disciples vivent dans un monde où la culture de l'affrontement a toute sa place, que ce soit finalement dans les relations familiales, comme entre Hérode et sa belle-sœur, que ce soit dans la violence des gouvernants, comme celle du roi Hérode, que ce soit aussi dans le déchaînement de la nature, comme cette tempête sur le lac de Galilée. Est-ce qu'on ne commencerait pas à voir quelques similitudes avec notre propre environnement? Alors, il faut s'intéresser aussi aux deux personnages principaux du texte, Pierre et Jésus. Pierre, c'est l'un des 12 disciples, c'est l'un des plus proches de Jésus. Ils étaient probablement amis d'enfance, ils se connaissaient très bien, leur relation était forte. Pierre avait un caractère affirmé, assumé, et il n'hésitait pas à parler franchement avec Jésus, tout comme Jésus avec Pierre d'ailleurs. Les disciples sont sur cette barque et dans la nuit, hein, ils traversent le lac et une scène un petit peu loufoque fait surface. Les disciples sont pris d'un coup de panique. Ils pensent voir un fantôme, une apparition ou en tout cas quelque chose qui relève de l'irréel. Mais Jésus les sort rapidement de leur torpeur, hein. Il les rassure, ce n'est pas un fantôme, c'est bien lui-même, il est réel. Et c'est là que je l'ai appelé Pierre le fougueux, qui entre en scène, qui était d'ailleurs peut-être plus fou que gueux. Pierre tente l'impossible. On ne sait pas ce qui lui prend. Il sait bien que marcher sur l'eau, c'est impossible. J'espère que, on peut espérer qu'il n'avait pas mangé trop de champignons avec le pain et les poissons lors du repas de l'après-midi. Et pourtant, Pierre va marcher sur l'eau. Combien de temps? Difficile à dire. Si les disciples entendaient Jésus, malgré le vent, ils ne devaient pas être très loin d'eux. C'est quand même pas une histoire très cartésienne, en tout cas. Mais Pierre fait le pas, il marche sur l'eau, et puis, ce qui devait arriver arriva, il tombe. Et là, malgré toute son expérience de pêcheur, c'est intéressant, son expérience de la mer, Pierre se sent dans le besoin d'appeler à l'aide et de demander de l'aide à un rabbin, un ex-artisan dans le bâtiment. Pierre sait pourtant mieux nager que Jésus, probablement, j'espère pour lui. Mais la façon dont l'auteur relate, la façon dont Jésus est appelé par Pierre, elle est particulière. Seigneur. C'est pas juste la façon dont nous on dit Seigneur aujourd'hui. Seigneur, à cette époque, c'était le titre donné à l'empereur romain. Et par là, l'auteur veut montrer qu'il ne s'agissait pas simplement d'un rabbin au grand succès avec les foules qui le suivaient, mais bien du Christ, du Messie, de Dieu lui-même. Alors Jésus, comme d'habitude, il nous épate un petit peu de par sa... Et on ouvre le vocabulaire créé pour l'occasion, par sa coulitude, sa façon d'être tranquille. Il donne l'impression de voler au-dessus des événements, de les affronter de façon paisible. C'est vrai, Jésus avait besoin de passer du temps seul, mais il avait aussi besoin de passer du temps avec ses amis, avec ses disciples. Il revient donc vers eux, marche tranquillement sur l'eau, comme si de rien n'était, malgré des vents forts, impétueux, contraires, et il propose à son ami Pierre de le rejoindre dans cet irréel, dans cet extraordinaire. Est-ce bien ça que Jésus est en train de faire ? Ou bien, est-ce qu'il est en train de rejoindre Pierre dans sa réalité, c'est-à-dire celle de tomber dans l'eau ? Car il est impossible de faire autrement quand on sort du bateau pour aller dans l'eau. On tombe. Ou bien, est-ce un petit peu des deux ? Probablement. En tout cas, Jésus sauve son ami. Il le tire hors de l'eau, le ramène sur le bateau, termine la traversée avec ses disciples. Le vent se calme tranquillement. J'ai envie de dire, quelle nuit ! Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de vous réveiller le matin. On ne sait pas trop ce qui s'est passé cette nuit, mais on a l'impression qu'on n'a pas dormi une seule seconde. Peut-être que les disciples, après cette nuit mouvementée, pensaient pareil. Et justement, qu'en est-il de nous dans tout ça ? Qu'est-ce que cette histoire peut bien nous enseigner encore aujourd'hui sur la douceur ? Alors, c'est évident que nous vivons toujours dans une culture de l'affrontement, dans une culture d'antagonisme. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir les antagonismes riches et pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes, natifs et étrangers, etc. Et le texte nous le rappelle bien. Qui ne connaît pas une situation familiale compliquée ? N'existe-t-il pas autour de nous des dirigeants prêts à n'importe quelle violence pour assouvir leur soif de pouvoir ? Et les vents violents ? Est-ce que la terre ne se déchaîne pas toujours autant autour de nous ? C'est peut-être pas des tornades pour nous en France, mais des incendies, par exemple. Nous vivons bien dans une culture d'affrontement. Et pourtant, dans cette culture d'affrontement, d'antagonisme, ce personnage de Pierre nous rappelle que parfois, nous aussi, nous marchons sur l'eau. Nous osons, nous espérons, nous avons foi. Nous réussissons, hein, il y a des phases de la vie où tout nous sourit. Et puis il y a aussi la réalité. La réalité de ce monde avide, cupide, qui nous rattrape. De ce monde avec ses limites. Et nous-mêmes, nous avons aussi nos échecs, nos limites, nos erreurs. Et en matière d'affrontement, en matière de manque de douceur, en matière de violence subie, on n'est pas les derniers. Et dans ces affrontements, au beau milieu de nos limites, de nos échecs, le Christ est toujours présent. Il est toujours là. Il n'est pas seulement là pour nous faire marcher sur l'eau, ou quand on réussit, le Christ est toujours présent. Et c'est peut-être là la chose la plus importante à retenir de ce texte. La douceur du Christ l'emporte sur la violence et sur les conflits. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont naturellement plus doux que d'autres, mais le Christ, lui, est là, tout en douceur. Lui peut toujours être en douceur. Alors que nous, qui d'entre nous peut se targuer d'être toujours doux, ou bien, dans l'autre sens, d'avoir toujours reçu de la douceur de ses proches? Des fois, nous subissons cette violence, nous subissons la non-douceur des autres. Mais là aussi, le Christ est présent. Il nous tend la main pour nous relever. Et pour venir avec nous dans notre bateau, dans notre quotidien. Il vient traverser cette épreuve avec nous. Il vient consoler, guérir, comme ce chant nous le disait tout à l'heure. Et la douceur du Christ, c'est bien ce dont nous avons particulièrement besoin quand nous sommes victimes de la violence. Et nous pouvons nous rappeler que oui, nous vivons dans une culture de l'affrontement, que parfois nous marchons sur l'eau ou nous pensons marcher sur l'eau, tout comme parfois nous avons l'impression de couler, que nous pouvons reconnaître nos limites, car le Christ sera toujours présent à nos côtés. Et j'aimerais conclure ce temps avec ce qu'un pasteur ménonite, David Ayer, écrivait justement sur ce sujet, sur ce sujet de la douceur comme une réponse à cette culture de l'affrontement. Et après quoi nous pourrons prendre un instant de silence, de réflexion personnelle. Il disait « Choisir la douceur, c'est donc entrer dans ce royaume de Dieu dans lequel tous les pouvoirs ont été donnés à Jésus. C'est choisir d'être un disciple du crucifié ressuscité, de celui qui a vaincu la mort grâce à l'amour. C'est croire que la douceur est plus forte que la violence. C'est espérer, parfois contre toute espérance, que la douceur du Christ aura le dernier mot. Amen.